Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente très rapidement pour que comme ça la question se pose plus après. Je m'appelle Édouard Durand et je suis juge des enfants. Et actuellement, j'enseigne cette fonction à l'École nationale de la magistrature. C'est une excellente idée qu'a eue la librairie Mola de proposer à Catherine Sultan de venir présenter son ouvrage qui est paru il y a un peu plus d'une semaine maintenant, le 11 avril dernier, qui s'appelle « Je ne parlerai qu'à ma juge, voyage au cœur de la justice des enfants pour », pour plusieurs raisons, parce que la première, c'est que Catherine Sultan est une des grandes figures emblématiques de la justice des enfants en France.
Encore vivante.
Une des figures emblématiques les plus vivantes, dynamiques, avec une parole très autorisée sur cette question. Et la deuxième raison qui est complémentaire, c'est qu'on parle toujours de la justice des enfants. On en entend beaucoup parler, surtout dans les pages faits divers. Et en réalité, mais il y a peut-être beaucoup de professionnels de l'enfance là dans cette salle ce soir, c'est une justice qu'on connaît très très mal. Et un des premiers objectifs qu'atteint le livre de Catherine Sultan, c'est de rendre justice aux enfants et de remettre cette justice des enfants à sa place avec ses vrais enjeux. L'essentiel ce soir, bien sûr, étant que ce soit toi qui parles et qu'il y ait un échange avec les personnes qui sont présentes. Je rappellerai juste rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Catherine, ton parcours dans la magistrature. Tes premières fonctions, c'est juge des enfants à Douai pendant 2 ans à partir de 1988. Et depuis cette date, tu n'as jamais quitté la justice des mineurs. Ensuite, au tribunal pour enfants d'Evry de 90 à 95. Et puis ici à Bordeaux, à l'École nationale de la magistrature pour enseigner cette fonction aux futurs magistrats jusqu'en 1999, qui est la date du retour dans la capitale. Juge des enfants à Paris jusqu'en 2001, et puis après un passage au ministère de la Famille en 2001-2002, tu es vice-présidente, juge des enfants à Évry, puis à Créteil, et actuellement tu présides le tribunal pour enfants de Créteil. Tu coordonnes l'action juridictionnelle des nombreux juges des enfants de Créteil. Et donc c'est beaucoup d'années passées avec les enfants en danger, et beaucoup d'années vécues avec les familles les plus en difficulté. Et donc beaucoup de choses à nous dire sur cette jeunesse-là. Je voudrais rapidement évoquer la préface que fait Pierre Jox à ton ouvrage. Ancien ministre de l'Intérieur et ancien ministre de la Défense, Pierre Jox, c'est une voix autorisée sur les enjeux de la sécurité et de la nation. Et avec ce bagage-là, il s'est engagé comme un militant dans la cause de la justice des mineurs pour promouvoir une justice adaptée pour les enfants. Et dans sa préface, il le rappelle de façon très nette et il commence par rappeler le contexte dans lequel la justice des enfants a émergé. C'est 1945 et 1958. Et il se plaît à dire que en 1945, lorsque l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante arrive, la France est encore un pays en guerre et qu'il a paru parmi les choses les plus urgentes au général de Gaulle et à ses compagnons de faire une ordonnance de protection pour les enfants délinquants. Il vient nous dire dans cette préface que l'enfance délinquante fait partie de l'enfance en danger. Et il rappelle cette formule de l'exposé des motifs de l'ordonnance de 1945. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. Et c'est pour ça que c'est un régime de protection. Et il termine la préface en disant « Et aujourd'hui et dans 30 ans, est-ce que la France sera encore assez riche d'enfants pour se permettre de négliger ce qui pourrait en faire des êtres sains ?» Alors je vais te laisser la parole en rappelant le plan du livre, parce qu'il nous instruit sur tes intentions dans cet ouvrage, puisque tu commences par évoquer ton parcours, un parcours de juge des enfants, et puis l'enfance dans la violence, les parents, et puis l'enjeu capital qui est l'enjeu du temps, le temps de l'enfance, le temps de l'éducation et le temps de la justice. Et que faire pour que ces temps-là se coordonnent le plus possible, bien qu'ils soient très différents. Alors, moi, je n'en dis pas plus. Je voudrais te laisser la parole et avec une question quand même. D'abord, pourquoi ce livre, pourquoi ce projet et cette ambition de parler à tes concitoyens de la justice des enfants ?
D'accord, je vais dire, alors, d'abord je vous dis bonjour, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, dire que je suis très contente d'être ici, que tout le monde aime Bordeaux, donc il y a beaucoup de raisons pour l'aimer. Moi j'en ai parmi toutes les raisons, il y a les amis, il y a l'école de la magistrature, donc qui est un endroit un peu, qui est représenté ici d'après ce que je devine, et où j'ai passé un certain temps, et il y a Mola. Hein, parce que c'est quand même le passage obligé quand on revient à Bordeaux, on passe chez les amis et chez Mola. Donc voilà. Alors là, maintenant, je réponds à ta question. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Je l'ai écrit pour. Parce que si. Quand tu as décrit mon parcours, tu as pu dire à quel point la justice des enfants prend une place importante dans mon parcours professionnel et dans ma vie en général. Que c'est une justice très particulière, c'est une justice très méconnue, dont on parle de plus en plus dans des débats politiciens un peu à courte vue. Je veux dire, on s'envoie des arguments sur ce sujet-là. Ça vient parfois... il est arrivé que ce soit dans certaines campagnes présidentielles, pas la dernière, mais les deux précédentes en tout cas, la question de la délinquance des mineurs a pris une place importante et c'est devenu un sujet de polémique, en fait, sans qu'on sache de quoi on parle. Donc moi, ce que j'ai souhaité, et c'est vraiment ça la démarche, contribuer à ma manière à ce débat, livrer mon témoignage, un témoignage d'une expérience professionnelle et une expérience d'un engagement pour cette justice des enfants, le livrer à l'opinion publique pour qu'on sache de quoi on parle. Alors, ce livre, il est destiné justement à... Je pense qu'il est accessible, c'est ce que j'ai souhaité, qu'il soit accessible pour intéresser sur ce sujet. Parce que cette justice des enfants, c'est une justice assez particulière et qui gagne à être connue. Un magistrat qui s'appelle François Colcombet, qui n'est plus magistrat maintenant, qui a été député aussi, qui était un des créateurs du syndicat de la magistrature, ce fut une grande figure, même avant que je sois, largement avant que je sois magistrat, a écrit récemment dans une revue à laquelle j'avais aussi contribué, il a eu une formule que j'aime beaucoup, il avait donc dans un article consacré au juge des enfants, il a écrit que cette institution était un chef-d'œuvre du patrimoine national français et il la classait dans les mêmes catégories que les chemins de fer ou la tour Eiffel. Mais je pense que ça vient dire quelque chose parce que en fait peu de gens le savent. La justice des enfants, c'est en fait un certain nombre de principes qui sont affirmés, qui viennent dire ce qu'est un enfant dans la société, quelles sont les responsabilités des adultes par rapport à eux, par rapport à l'enfance, affirmer donc que chaque enfant a droit à l'éducation, que chaque situation d'enfant délinquant ou enfant en danger justifie une réponse, mais une réponse qui soit tournée vers l'avenir. Voilà. Et à ces principes, on a allié une manière de faire extrêmement concrète. Et c'est ça qui fait certainement la richesse de cette justice, puisque on a créé un système, il y a une loi, il y a des magistrats, il y a des éducateurs, des professionnels de l'enfance qui ensemble se saisissent de tout cela pour construire, pour faire du sur-mesure. C'est une justice c'est au petit point, c'est au sur-mesure pour chacun, si on a les moyens de le faire. Hein, c'est le but de cette justice. Alors comment je m'y suis prise dans mon livre, en fait, de quoi il s'agit. Alors c'était de montrer ce qui se passe dans le cabinet d'un juge, de montrer aussi comment un juge se positionne, comment il réfléchit, comment il doute, quelles sont les questions aussi qu'il est amené à se poser. Donc entre les murs d'un cabinet de juge des enfants, c'est des scènes de vie qui se jouent. Des histoires de famille, des histoires d'enfants, hein, au cœur de désordres multiples. Il y a des enfants en danger, il y a des enfants délinquants, il y a des enfants, ces enfants sont parfois les mêmes, voire souvent. Il y a une phrase là que j'ai lu le journal en arrivant, enfin dans le train là pour venir à Bordeaux, et il y avait un article sur un haut magistrat qui vient de décéder, qui s'appelle Pierre Drey, qui était, moi quand je suis rentrée dans la magistrature, il était premier président de la Cour de cassation, et c'était un humaniste. Nous on arrivait à l'école, il était venu nous accueillir, et les mots qu'il employait étaient des mots qui nous touchait, nous, futurs jeunes juges. Et dans les phrases qui étaient... Enfin, dans l'article nécrologique là, que j'ai pu lire en arrivant, il a dit le journaliste citait une de ses phrases. Il disait « Rien de ce qui fait la vie de notre société... Rien de ce qui fait la vie de notre société ne doit vous être étranger. » C'est ce qu'il disait aux juges, aux futurs juges des enfants. Et je pense que dans un cabinet de juges des enfants, c'est un peu le reflet, le miroir de ce qui ne marche pas, de certaines des souffrances qui peuvent être ponctuelles. Ça peut être un moment, hein, le passage chez le juge des enfants, ça peut être une fois, ça peut être une période de vie, ça peut être plus long et plus complexe, mais à un moment donné, donc, face à ces histoires de vie qui ressemblent à tout ce que nous vivons à certains moments, mais d'une manière plus intense et plus extrême, eh bien, il y a une manière d'aborder ces questions, de trouver des solutions, de marquer des limites. Donc, je pense que c'est cette réalité dont je parle, cette réalité qui est souvent dure. D'ailleurs, parfois, en écrivant le livre, en vivant cette fonction, on se rend pas compte que c'est dur. Et j'ai eu quelques échos de personnes qui ont lu le livre, qui me disent « mais c'est quand même triste ». Oui, c'est vrai que c'est des situations dures, mais c'est des situations, c'est une réalité à laquelle on réagit, à laquelle on propose. Il y a une manière d'intervention, donc d'intervenir, comme je le disais, donc à travers par les moyens que nous donne la loi, par le travail des éducateurs et des juges qui se fait ensemble. Et donc cette manière d'intervenir pour l'enfance en difficulté, puisque c'est ça le rôle du juge des enfants, ça vient illustrer une certaine conception du rôle de l'État, une conception aussi de ce qu'est l'enfance par rapport au monde des adultes. Donc un droit où la justice assume une responsabilité à l'égard de tous et de tous ses enfants dans une finalité d'éducation. Alors, voilà comment je présente ce livre, peut-être pour envoyer une pique à un moment. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans à peu près, on a voulu remplacer le nom de la justice des enfants par justice des mineurs. Le juge des enfants ne devait plus s'appeler le juge des enfants, mais le juge des mineurs. Et on voulait chasser l'enfant de cette loi. Et je pense que ça venait dire la place que l'on voulait faire aux enfants, puisque et ça ne concerne pas que la justice, ça concerne plus généralement comment on considère les enfants aujourd'hui dans notre société, parce que c'est une formule peut-être un peu simpliste, mais on est le mineur de personne alors qu'on est toujours l'enfant de quelqu'un. Et c'est un peu, je pense, ce que j'essaye de raconter. Est-ce que tu t'y retrouves ?
Ah oui, je m'y retrouve. ça m'instruit et ça me motive, et puis ça me fait prendre conscience que je fais un beau métier.
Ouais.
Et est-ce qu'on le fait tout seul, ce métier ? C'est une question qui me vient comme ça, là. Est-ce qu'il est tout seul, le juge, dans son cabinet, ou... J'ai une petite idée sur la réponse, mm-hmm. mais est-ce qu'on peut être juge des enfants sans d'autres professionnels ?
Alors, des fois, il est tout seul, quand même. Hein. Des fois, il est tout seul, et au moment de prendre certaines décisions, il l'est, c'est la difficulté, et il ne faut surtout pas qu'il le reste. Alors, on devient... moi, je pense qu'on devient juge des enfants vraiment avec, en travaillant avec ces autres professionnels qui, eux, sont dès le départ des professionnels de l'enfance. Parce qu'au départ, un juge des enfants, c'est d'abord un magistrat. Il a la tête normalement plutôt bien faite, des idées très structurées, une bonne organisation de sa pensée. Mais sur l'enfance, il ne sait pas grand-chose, si ce n'est des choses très personnelles, mais qui ne sont pas... Et en se confrontant à des situations, en s'enrichissant de ce qu'apportent d'autres professionnels, que sont les éducateurs, les travailleurs sociaux, les psychologues, les psychiatres, et ben, petit à petit, il va se faire quelque chose qui fait que moi, bon, 25 ans après avoir démarré, je pense que je fais partie des professionnels de l'enfance. Mais ce n'est pas fait tout seul. Alors, on n'est pas tout seul non plus parce qu'on travaille. Alors, certains juges des enfants commencent tout seuls dans des tribunaux et c'est une responsabilité, je ne vais pas le dire trop fort, parce que je suis sûre qu'il y a quelques jeunes collègues qui vont arriver au mois de septembre un peu seuls dans un département. Mais quand on est... c'est très important d'être plusieurs dans le tribunal pour enfants dans lequel je travaille. Les échanges entre juges, c'est constant. On est tous très passionnés par ce qu'on fait et on en parle beaucoup et on s'aide comme ça. Tous, quelle que soit l'expérience qu'on peut avoir face à une situation particulière, face à la situation d'un enfant, on est toujours dans la question, on est toujours dans le doute, c'est jamais automatique et on a toujours besoin d'en parler. Voilà. Et l'expérience, il ne fait pas grand-chose, en fait. Même avec des gens beaucoup plus jeunes, moi, on va se saisir de ce qu'ils vont pouvoir nous apporter. J'ai bien répondu, là.
Je pense. Et il y a un autre point, du coup, qui me vient en t'écoutant. La justice des enfants, ou peut-être plus des mineurs, là, dans ce cas-là, on l'appréhende plus spontanément comme la question des enfants qui commettent des infractions, parfois graves d'ailleurs. On voit des infractions très graves commises par des enfants. Et c'est pas que ça, la justice des enfants. Est-ce que tu pourrais présenter ces deux aspects complémentaires que tu as déjà un peu évoqués de l'assistance éducative et du droit pénal des enfants?
Oui, alors le juge des enfants, c'est le juge donc, de l'enfance en difficulté. À ce titre, il traite à la fois des enfants en danger, donc c'est les enfants de leur naissance jusqu'à leur majorité, de moins en moins au-delà, alors que certains, au-delà de la majorité, auraient encore besoin d'être soutenus. Et ce sont donc des enfants qui vivent, qui sont, la formule est rude, qui sont en danger et donc que les parents ne sont pas en capacité de protéger. Donc ce sont des enfants maltraités, ce sont des enfants dont les parents sont en grand désarroi, ce sont des enfants qui présentent des troubles tellement importants que les parents eux-mêmes fragilisés ne sont pas en capacité de les aider. Enfin, c'est extrêmement divers et c'est aussi donc les enfants qui commettent des délits. Alors l'activité du juge des enfants, moi quand j'ai commencé comme juge des enfants, 80% de notre activité c'était la protection de l'enfance et 20% à peu près l'approche pénale. Des enfants qui commettaient des transgressions, on pensait plutôt les saisir le juge des enfants au titre du danger, en disant c'est révélateur d'un dysfonctionnement familial. Bon. Et avec la société a changé, a évolué, le rapport à la violence et à la transgression aussi. Et maintenant, dans les zones urbanisées, 50% de l'activité du juge des enfants, c'est le pénal, et les autres 50%, ça reste la protection de l'enfance. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, dans ces deux cas, le juge n'apporte pas les mêmes réponses, bien sûr, mais il est dans la même logique, c'est-à-dire il est dans la logique de repérer un problème, de le qualifier, en fait, c'est souvent ça le raisonnement d'un juge, de dire ce qui ne correspond pas à ce que la société attend et à ce à quoi un enfant a droit ou aux obligations qu'il a aussi. Mais c'est à partir de ce problème que va révéler soit le danger, soit le délit, de construire autre chose, d'essayer de résoudre dans la durée, dans le temps, les problèmes qui ont été posés. Et très souvent, des enfants... dans le livre, je parle de la situation pour illustrer... parce que parfois, des personnes disent « Mais comment un même juge peut être le juge du délinquant et le juge de la victime ?» Alors, d'abord, pour comprendre les uns, il faut connaître les autres et l'approche se réunit, et puis que dans les deux cas, il y a une question de loi, de limite. Un enfant, on lui doit la protection, on lui doit l'éducation, mais on doit aussi lui marquer les limites et éventuellement le sanctionner quand ça s'impose. Donc il y a cette raison-là. Mais pour l'expliquer, je donne le cas, enfin je parle de cas d'une jeune fille qui, dans le livre, s'appelle Karima. Dans la vie, ne s'appelait pas tout à fait comme ça, mais ressemble tout à fait. C'est une jeune fille que je connais quand elle a 16-17 ans, suite à une affaire pénale, à des affaires pénales. C'est une jeune fille obèse qui a commis plusieurs agressions dans le métro, sans aucune raison, avec un groupe de d'autres jeunes filles un peu à la dérive, et si les gens les regardaient un peu de travers, et ben avec son corps elle y allait, elle fonçait, et avec beaucoup de violence. C'était des faits d'une certaine gravité, hein. Il y avait eu plusieurs agressions, et comme ça, très sans voir la personne qui avait en face d'elle. Et cette jeune fille a été arrêtée. Elle a comparu devant moi, devant le juge des enfants. Elle a été jugée. Ça a été un soulagement pour elle, cette arrestation. Ça ne s'est plus jamais produit. Elle a été condamnée à un travail d'intérêt général qu'elle va d'ailleurs réaliser. Mais dans le cadre... elle a été condamnée à un travail. Et puisqu'elle ne faisait pas ce travail, elle serait allée en prison. Donc, je veux dire, c'était une peine qui venait marquer la gravité de ce qui s'était passé. Mais il y a eu tout un suivi éducatif qui s'est mis en place. C'est ce qu'on a compris, pas tout de suite, parce que ça a mis beaucoup de temps, c'est que cette jeune fille... qui pleurait énormément, qui pleurait tellement, même pendant son audience, on ne savait pas sur quoi elle pleurait, et que cette jeune fille, elle était en fait violée par ses frères, et c'était un secret de famille, pour elle, c'était impossible si elle le disait, elle était mise en dehors de sa famille, et donc c'était un choix quasiment impossible, dans lequel il fallait l'accompagner. C'était soit la rupture, soit accepter cette loi familiale, qui était une loi, bien sûr, transgressive, terrible. Bon, et là, je pense que ces histoires-là viennent montrer comment, parce qu'elles sont pas, c'est pas extraordinaire, comment ces deux justices se rejoignent, et comme c'était important pour cette jeune fille, à la fois que la justice vienne lui dire l'arrêter et marquer qu'elle n'était pas libre elle-même si elle était aussi violente avec les autres, mais qu'on vienne aussi lui ouvrir une autre porte et lui tendre la main pour elle, mais aussi pour qu'elle ne soit pas une jeune délinquante. C'est l'intérêt de personne. Voilà.
Tu viens d'évoquer la situation d'une enfant qui a été confiée à ta responsabilité d'une certaine façon. Et il faut dire que dans tout ce livre, ta pensée sur la justice des enfants, elle s'appuie sur toutes les situations que tu évoques, très nombreuses, beaucoup de situations de familles ou d'enfants que tu racontes en changeant leur prénom. Peut-être avant qu'il y ait un échange avec vous, je voudrais lire deux, trois passages que j'avais repérés et qui, pour certains, illustrent des points que tu as déjà évoqués, et pour d'autres, évoquent d'autres thèmes que tu pourras commenter ou approfondir si tu le veux, et des passages qui ne sont pas des situations que tu racontes, pour que tu les dises toi-même comme tu viens de le faire. Et le premier, ce n'était pas le premier que j'avais prévu, mais il parle de l'audience et de la posture du juge des enfants. Et si vous permettez, c'est quelques lignes que je lis, parce que ça me parle en tout cas. Nous ne sommes pas dans l'impudeur, le voyeurisme, le sentimentalisme, la confession gratuite. En vertu de la loi commune, le juge des enfants suscite et recueille ses propos pour répondre à la transgression, au détournement de la loi, à la mise en danger. Le juge des enfants est garant de ce cadre. C'est au titre de la fonction sociale qu'il occupe qu'il accède à ces paroles d'intimité. C'est à travers sa personnalité, sa sensibilité, son vécu également, qu'il remplit cette fonction. Le juge des enfants doit chercher sa juste place avec une conscience aiguisée du sens et des limites de son rôle, défini par la loi, tout en préservant sa liberté sur la manière de l'assumer. Il peut limiter les droits de l'autorité parentale dans la limite des conditions fixées par la loi, en se tenant à une interprétation stricte et selon les règles d'une procédure contradictoire préétablie. Ces garanties doivent permettre de se méfier des jugements de valeur et de ne pas outrepasser des pouvoirs qui s'exercent dans l'intimité de la vie de l'autre. Le risque est fort d'en abuser avec l'illusion et la bonne conscience d'intervenir pour le bonheur d'autrui. Pourtant, plus modestement, le juge des enfants n'est qu'un passeur.
Ça, c'est vraiment c'est ce sujet-là qui fait qu'on peut rester juge des enfants, enfin moi, longtemps, parce que la solution, on ne la trouve jamais. C'est-à-dire que c'est une quête perpétuelle d'être juste et de bien définir son rôle et de s'enrichir de cette capacité à bien se situer. C'est vrai qu'on rentre au cœur d'histoires humaines assez passionnantes. Et ce n'est pas pour rien. Moi, quand je lis le journal, je me dis, bon, je lis le journal, je vais tout de suite aller vers le fait divers. Et puis, donc, ce n'est pas pour rien que ces histoires m'intéressent aussi, je crois, et nous intéressent. Pourtant, on en a toute la journée. Mais, justement, quand on devient un juge des enfants, il y a un gros risque, c'est de penser qu'on va réparer, qu'on est là pour donner du bonheur à tous ces enfants qui sont passés à côté. Et là, je crois qu'on ne... Là, on ne tient pas. Si on part, que l'idée de départ soit une idée comme ça, altruiste, elle est indispensable, et une envie de... mais il faut être capable de savoir qu'on y est... On est amené à appliquer une loi assez ouverte, assez souple. C'est une loi très créative. La manière, on peut inventer pour chaque situation une manière de faire un petit peu différente, mais en oubliant jamais qu'on ne le fait pas à titre personnel, uniquement qu'on le fait parce que on a une fonction et qu'il y a des limites et qu'on a des pouvoirs, mais que ces pouvoirs sont limités. Sinon, c'est un écueil pour la personne, parce que je pense qu'on ne tient pas. Et puis, parce que c'est trop violent. Et puis, surtout, on n'est pas à la bonne place pour les enfants et les parents qu'on est censé soutenir à un moment. C'est ça que tu avais repéré dans ce passage.
Et puis, ça vient, c'est ce que tu dis aussi, mais ça vient nous chercher, nous, et parfois nous ébranler aussi personnellement. Il y a des pages où tu évoques ce que ça vient chercher personnellement chez toi, Catherine Sultan.
Oui, il faut s'y intéresser pour pouvoir ne pas se laisser envahir par ses propres sentiments, parce qu'on est. Je pense que j'en parle. Quand on parle de protection de l'enfance, une famille, une personne qui est convoquée pour la première fois devant un juge des enfants au titre de l'enfance en danger, ils vont arriver avec une seule idée, c'est on va me retirer mes enfants, on va me placer mon enfant, parce que le juge a effectivement ce pouvoir, et c'est le voleur d'enfants. Voilà. Quand on devient juge des enfants, il y a une chose qui est... Je pense que les deux décisions les plus difficiles à prendre, c'est de placer un enfant, donc de le séparer de sa famille, et puis c'est de mettre un enfant en prison. Voilà, c'est un peu les deux points. Je ne dis pas que tout le reste, c'est très facile, mais c'est un peu ces deux points. Et je pense qu'il faut le risque, c'est que, et on en parlait tout à l'heure, c'est quand on prend moi, je parle un petit peu de la difficulté des premiers placements au départ, quand j'ai démarré, et puis après, c'est-à-dire qu'il faut être capable de dépasser, d'être à l'écoute de ce que ça provoque chez nous, mais surtout de le dépasser et de comprendre qu'à chaque fois, on ne place pas son enfant, on ne place pas l'enfant qu'on a été. Et que c'est des enfants qui vivent des situations extrêmement dures, dans des familles extrêmement désorganisées, et que les protéger, les soutenir et les prendre en compte, c'est justement assurer cette séparation et dans des bonnes conditions. Mais ça, ce n'est pas écrit dans la loi. Ça, c'est des choses qui amènent que rend nécessaire un cheminement personnel, c'est sûr. Et au début, c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué. Et puis, c'est dans ces lignes que je viens de lire, tu viens dire aussi que c'est la loi, et notamment la loi sur la procédure, et les autres professionnels qui évaluent la situation et transmettent ces informations aux juges, qui, l'un et l'autre, la loi et les autres professionnels, qui nous aident à tenir cette place aussi.
Mmh. Oui, c'est ça, c'est qu'on est... et qui pose des limites.
Je continue mes petites lectures. Mais c'est pour donner envie de le lire, parce qu'il y a de nombreuses pages, alors je ne dirai pas tout. Il y a aussi quelques pages qui sont sur... dans ce chapitre sur les parents, tu vas proposer plusieurs portraits de famille, d'une certaine façon, et dans certains types de situations que les professionnels de l'enfance sont amenés à rencontrer, les situations de pathologie mentale chez les parents, tu as des pages sur ces difficultés-là, ou sur la maltraitance, sur ton analyse de certains dossiers que tu as eus, des enfants victimes d'inceste. Et puis, au milieu de ces pages, il y a ces quelques lignes qui viennent évoquer la question de l'adhésion et du juge qui, comme tu le disais à l'instant, vient arrêter quelque chose à un moment donné. Face à des parents dont la pathologie, à un moment donné ou durablement, est menaçante pour l'intégrité et la sécurité de l'enfant, mon seul rôle pourra être de dire non, d'incarner ce mur auquel les parents vont se heurter, de signifier l'impossibilité de vivre avec leur enfant, même si la raison n'en est pas comprise. Il revient au juge des enfants de prendre le temps d'expliquer sa décision. Il doit le faire avec tact, mais aussi dans la clarté. Les parents doivent entendre les véritables raisons de cette opposition. Pourtant, le juge doit aussi intégrer la limite de ce que l'autre peut entendre et accepter. À mes débuts comme juge pour enfants, j'avais du mal à distinguer ces différents niveaux de transmission. Je pouvais ressentir comme un échec de ne pas être allé au bout de l'explication. Il m'apparaissait indispensable de mener à terme le débat sur le sens et les objectifs de la décision. Pourtant, parfois, ce n'est pas possible. Quand un parent parvenu au bout de ce qu'il est en capacité d'entendre quitte le cabinet brutalement en claquant la porte, la tâche est néanmoins accomplie en évitant trop de souffrance ou une réaction plus agressive. Mmh.
Parce qu'en fait, la loi le droit des enfants, comme c'est une rencontre entre la loi et l'éducation. Donc la loi, elle est posée, elle est dite, mais l'éducation, elle se construit. Il faut du temps. Enfin, il faut du temps, puis il faut que ceux auxquels elle doit bénéficier puissent la comprendre, en être d'accord. Donc, peut-être pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, le but, c'est quand même que ça profite à ceux auxquels ça s'applique, à l'enfant, que l'enfant qui est confié dans un foyer éducatif puisse... comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles il y est, et pour qu'à un moment donné, ça lui soit utile, ça lui permette d'aller mieux, ça permette d'améliorer ses rapports avec ses parents. Enfin, donc, le rôle, le juge des enfants, il y a une formule que j'aime bien, moi, c'est l'idée de la pédagogie de la loi. C'est-à-dire qu'on explique pourquoi la loi intervient, pourquoi un juge est amené à intervenir, et on essaye d'expliquer les choses pour que, après, les mesures puissent être mises en place, que les éducateurs puissent travailler en s'appuyant sur ces explications qu'a donné le juge. Donc il y a une formule dans le droit de la protection de l'enfance, c'est la recherche de l'adhésion. C'est-à-dire que le juge, à la fois, il impose, mais en même temps, il cherche l'adhésion. Mais c'est vrai que ça a des limites. C'est vrai que ça a des limites parce que c'est ce que j'explique dans le passage que tu dis. C'est vrai qu'il y a des décisions qu'on peut annoncer qui sont inacceptables, qui sont incompréhensibles parce que la personne n'est pas en état de la comprendre et que peut-être qu'au début de mes fonctions, j'aurais couru après celui qui claque la porte pour essayer de lui demander de revenir et pour lui expliquer, et qu'à un moment il faut peut-être comprendre que de toute façon, on le reverra dans un an ou dans 6 mois et que les choses là seront peut-être un petit peu plus acceptables. Ça passe parfois, j'ai envie de raconter peut-être l'histoire que je te racontais tout à l'heure d'hier, parce que parfois l'adhésion, elle passe par des chemins un peu auxquels on ne s'attend pas. Hier, j'avais une audience avec un adolescent et ses parents. Le garçon a un comportement un peu agaçant. Il a été exclu de... Alors, c'est pas pour ça qu'il est agaçant, mais c'est dans la manière dont il présente ses problèmes. Bon, il a des problèmes d'adaptation, de comportement. Il a été exclu de deux établissements scolaires successifs parce qu'il est... Il a un comportement irrespectueux, voire violent avec les enseignants. Il est décalé. Il vit un peu dans son univers. Les parents ont connu des périodes très conflictuelles. Là, ils vont mieux, mais ils sont très démunis face à ce garçon. Et donc, bon, l'audience, dans mon bureau, c'était quelque chose d'assez banal pour un juge des enfants. Et je lui expliquais que, vu sa situation, il fallait que l'éducateur continue de travailler avec lui et de le rencontrer. Et lui argumentait d'une manière... effectivement décalé, en me disant, mais enfin, en quoi ça vous concerne? Moi, je suis très bien comme ça. Pourquoi vous venez vous occuper de ma vie? Qui vous dit que je vais pas bien? Bon, donc, je lui réexplique que c'est à la fois le rôle de ses parents, mais qu'à un moment donné, c'est aussi le rôle d'un juge, qu'on peut pas laisser un adolescent vivre ce qu'il vit, le devoir, enfin, éduquer un enfant, ça fait partie de nos responsabilités et qu'on lâchera pas et que, quoi qu'ils disent, on n'est pas au même niveau. Enfin, donc, je lui explique à peu près mot pour mot ce qu'il y a écrit parfois dans le livre. Et il était quand même assez... Il n'était pas très sympathique comme ça, mais bon, voilà, on fait les choses. Et puis, à la fin, je prends la décision et dis, bon, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous préviens que je ne pense pas rencontrer régulièrement l'éducateur et tout ça. Bon, contact, l'audience se termine. Et il vient vers moi et me dit, vous prenez des stagiaires? Voilà. Et je crois que là, bon, c'est une manière de montrer que bon, quelque chose est passé, il a compris, il ira voir son éducateur et voilà. Et c'est bon, parfois cette recherche d'adhésion, ça passe par là.
Il y a aussi un, c'est presque pour mon plaisir que je voudrais que tu évoques ça, parce que le juge des enfants, c'est un passeur aussi, parce qu'il va confier l'enfant à des professionnels qui ont du génie, qui inventent des choses, qui sont des créateurs, qui ont le don aussi de nouer le lien avec les enfants et avec leurs parents souvent. Et peut-être plus pour les enfants délinquants, mais tu évoques des établissements... originaux. Alors, je dis pour mon plaisir, parce qu'il est cher à mon cœur, c'est le CER Le Cirque, l'Escale. Et est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu de ces génies-là qui consacrent beaucoup à ça?
Oui, parce que c'est sûr, comme je vous disais, la justice des enfants, elle, c'est aussi un espace de liberté. C'est-à-dire que il y a des grandes directions qui sont données. Il y a des moyens, des outils. Hein. Les moyens matériels, il n'y en a pas beaucoup, il y en a de moins en moins. Mais enfin, il y a des outils, en tout cas. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir des inventions. Il y a effectivement, j'en parle dans le dernier chapitre de ce qui fonctionne et de ces adolescents pour lesquels les solutions habituelles ne fonctionnent pas, ne sont plus suffisantes, qui sont dans des situations trop difficiles pour s'adapter à ce type des établissements plus classiques. Et il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Charbonnier qui a créé ce centre d'éducation renforcée l'Escale, qui est un monsieur qui a passé toute sa vie à travailler avec des jeunes délinquants. Il a un certain âge aujourd'hui. Et en fait, je vais peut-être raconter l'histoire du début, en fait, comment il a commencé l'Escale. Et donc, ce monsieur a compris que pour faire avancer les adolescents les plus difficiles, pour créer quelque chose, il faut partager. Il faut rester à la fois un éducateur, un vrai professionnel, mais il faut faire des choses avec eux autour de ce qui peut les faire bouger et partager aussi du plaisir, des choses... Bon, alors, c'est un monsieur qui a commencé par... il a fait une entreprise de traiteur et donc fait travailler les garçons qu'on lui confiait en pensant que le travail de restauration, c'était un moyen d'apprendre les règles, de créer des choses positives et d'apprendre les règles, parce qu'on sait à quel point c'est strict, hein, et effectivement de vivre une expérience avec eux. Et alors ça marchait pas mal, cette histoire de traiteur, et ils ont ont acheté une tente pour recevoir, voilà, et pour pouvoir organiser des cocktails, des machins avec ces jeunes gens. Et juste après qu'ils aient acheté cette tente, il y a une famille de cirque qui avait perdu sa tente, je crois qu'elle avait pris le feu, et donc ils sont venus leur demander de la racheter. Et c'était des cirques familiaux, un cirque familial du sud de la France qui circule, qui comme on en voit encore peut-être moins, mais enfin il en existe. Et Monsieur Charbonnet a dit, écoutez, moi je vous la vends pas la tente, mais je vous la prête si vous m'emmenez avec un jeune. Et à partir de là est née une expérience, c'est vrai, assez exceptionnelle pour des adolescents délinquants, donc un jeune qui commet un délit. L'idée, c'est de lui dire, juste après la commission du délit, il part dans le bureau du juge et le juge le confie à un cirque familial avec un éducateur qui le suit. Et donc, il est totalement dépaysé, mis à distance de ses lieux habituels, totalement, c'est très violent, beaucoup plus violent que s'il se retrouvait dans un centre éducatif fermé, dont on parle beaucoup, parce que là, tout à coup, il perd tous ses repères. Il se retrouve dans des structures où la loi, c'est marginal, c'est des gens qui vivent un peu dans la marge, mais où les règles sont extrêmement strictes, où il n'est même pas question une seconde d'y déroger, et où les rapports humains passent beaucoup par l'affectif, quand même. C'est à la fois dur... Hein, c'est à la fois c'est dur dans les conditions matérielles, c'est dur dans les exigences et la discipline, mais si ça marche, il y a quelque chose qui se construit. Et ces jeunes donc passent pendant des sessions de 3-4 mois, et c'est une très belle expérience, quoi. Enfin, je ne sais pas si je l'ai bien résumé, mais ils racontent, parce que ça c'est et parfois certains, j'ai quelques photos en tête qu'on a pu voir d'un jeune de banlieue parisienne qui essaye de faire manger, enfin de demander à un lama de se lever. C'est pour eux, c'est, au début ils sont totalement, enfin en général au début c'est très dur, puis après il se passe quelque chose. Et l'idée de Monsieur Charbonnier, c'était de dire, c'était vraiment cette idée de la marginalité. Ces jeunes sont marginaux, ces circassiens sont aussi des marginaux. Et en même temps, ils ont quelque chose à s'apporter les uns les autres, puisque les jeunes doivent aider aussi, hein, doivent aider et se confronter. Donc, je pense que l'idée de règles et de lois est très, très présente aussi.
Merci. Avant qu'il y ait un échange avec vous, je lis juste quelques lignes qui sont presque à la fin du livre et qui, d'une certaine manière, rassemblent tout ce que tu as dit déjà. La justice des enfants semble prise en étau entre deux principes antinomiques, celui de l'absence de tolérance, inconciliable avec celui de la priorité éducative. Il est temps de désamorcer l'escalade. Pour ce faire, il faut soutenir les autorités intermédiaires pour qu'elles exercent des responsabilités à l'égard de l'enfance en difficulté, sans craindre de déjudiciariser totalement les transgressions bénignes. La justice doit, elle, se concentrer sur les situations plus préoccupantes selon une démarche d'individualisation fondatrice de son identité.
Là, ça vient un petit peu dénoncer une certaine tendance, un certain emballement qui, à mon avis, tourne le dos à ce qui est efficace. Je veux dire, ce qui est efficace, c'est... c'est ce que j'ai pu commencer à essayer de vous expliquer, enfin de présenter, c'est de prendre le temps d'abord de comprendre et puis le temps d'agir, mais en s'adaptant à chaque situation. Et bon, le droit, alors mais ça c'est un peu spécial, mais le droit pénal, et le droit pénal des mineurs en particulier, s'est construit ces dernières années autour d'une idée, la tolérance zéro. Ça veut dire tout. Bon, ce qui vient. Après, il faut mieux expliquer ce concept qui n'est pas jeté complètement. Faut pas, mais bon, il y a des choses. Mais là, c'est parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais dire on va s'occuper d'adolescents en disant tolérance zéro, c'est quand même incroyable. Dire justement, il faut tolérer, il faut accompagner, il faut être présent, il faut savoir, enfin, être un petit peu. Enfin, c'est des réponses visibles et des réponses qui ne sont pas, qui ne sont pas productives. Et donc là, on est dans une étape où il faut, enfin, il y a un chantier ouvert et il faut l'ouvrir il faut revenir. Je veux dire, j'ai commencé en disant pourquoi j'avais écrit ce livre, pour montrer comment les choses se passaient, mais ce n'est pas montrer pour rien, c'est montrer pour dire qu'on est en train de... que ce domaine de la justice a été... défiguré ces dernières années. Il y a eu des réformes, à la fois des réformes structurelles et des réformes législatives aussi, qui tournent complètement le dos aux principes fondateurs de cette justice. Et c'est, alors, ça veut dire que si on ne change pas les choses aujourd'hui, bien cette manière de faire et cette manière de voir les choses sera sacrifiée. Et ça vient... Et pour moi, l'idée qui traverse mon travail, c'est de dire que la manière dont on juge nos enfants, ça vient dire quelle est la place qu'on leur fait en général. Ça ne concerne pas que les enfants de justice, parce qu'on ne juge pas que les enfants des autres. Je veux dire, c'est aussi nos enfants, enfin, je veux dire, c'est quelle place on est prêt à leur faire. Et donc, le livre, il a modestement, c'est une pierre... pour essayer de contribuer à cet édifice qui doit être construit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut faire des réformes, il faut donner des moyens. Enfin, c'est un chantier encore.
Ce livre est un encouragement à agir le plus possible, quels que soient les moyens dont on dispose.
Ouais.
Merci à la librairie Mola pour son initiative et son accueil. Merci à vous tous pour votre présence attentive. Et merci à Catherine Sultan d'avoir écrit ce livre et d'être venue nous en parler.